Nous sommes habitués à voir des affiches, mais aussi des militaires en chair et en os, qui cherchent à engager des jeunes en leur décrivant les multiples avantages d'une carrière dans l'armée. On les trouve même dans les grands centres commerciaux, avec tout un arsenal de guerre. Par contre, ce qui est moins courant et plus modeste sont les publicités qui vantent les mérites d'une vocation religieuse. Comme les temps sont durs, on recrute pas seulement des jeunes, mais aussi des adultes et même des hommes mariés. Oui, mais si l'Éternel est Dieu, ne devient pas prêtre qui veut. Dans l'Israël ancien, pour exercer un ministère sacerdotal, il fallait remplir plusieurs conditions. Premièrement, être membre de la tribu de Lévi, la seule habilité à s'occuper du culte de l'Éternel. Pendant les pérégrinations des Hébreux dans le désert, c'était uniquement les Lévites qui montaient et démontaient le tabernacle et qui le transportaient jusqu'à la prochaine halte des tribus d'Israël. Deuxièmement, ne pouvait devenir prêtre que le Lévite qui faisait partie de la famille de Aaron, le frère de Moïse, et le premier grand prêtre d'Israël. Et troisièmement, il fallait que cet homme soit sans défaut corporel, même passager comme un membre cassé. Je lis le passage. L'Éternel parle à Aaron et dit: « Tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camu ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés, il n'ira point vers le voile et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Je sais bien que ces règles vont à contre-courant de notre culture décadente où tout et tout le monde est accepté et acceptable. On peut crier que c'est pas juste à plein poumon, mais ça ne changera rien. Je continue à lire dans le chapitre 2 de Malachie. « J'ai conclu mon alliance avec Lévi. Sa bouche dispensait un enseignement vrai, et l'on ne trouvait sur ses lèvres aucune fausseté. Il vivait avec moi dans la paix et avec droiture. Il a détourné de leur faute un grand nombre de gens. Car le prêtre doit s'attacher à enseigner la connaissance. C'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. » Versets 6 et 7. Lévi représente toute la tribu, l'ensemble des Lévites et les prêtres en particulier. En hébreu, l'enseignement vrai que dispensait la tribu de Lévi est la loi de vérité, celle de Moïse, qui énonce les responsabilités de l'homme envers son Créateur. Avant de quitter ce monde, Moïse s'est adressé à la seconde génération d'Hébreux sortis d'Égypte, et leur a dit qu'au moment de la fête du jubilé, qui était l'occasion de la remise des dettes, « Vous rassemblerez tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui résident chez vous, afin qu'ils entendent la lecture de la loi, qu'ils apprennent à révérer l'Éternel votre Dieu et à obéir à toute cette loi en appliquant toutes les ordonnances. Ainsi leurs enfants, qui ne la connaîtront pas encore, l'entendront aussi et apprendront à révérer l'Éternel votre Dieu. » La tribu de Lévi a le mieux mérité l'éloge que lui adresse Malachie durant la période historique qui coïncide à l'époque de Moïse puis de Josué, son aide-de-camp. Lévites et prêtres étaient alors des exemples pour les autres Israélites parce qu'ils étaient intègres, obéissaient à la loi et d'une façon générale menaient une vie pieuse. Tel qu'il fut mis en place par Moïse, le ministère des prêtres avait plusieurs facettes. Ce sont eux qui avaient la responsabilité d'enseigner la connaissance de Dieu et de la volonté divine telles qu'elles sont révélées dans la loi. Moïse a dit à son frère Aaron et ses fils, « Vous devez être capables d'enseigner aux Israélites toutes les ordonnances que l'Éternel leur a données. » Parallèlement, les prêtres devaient trancher dans les questions relatives à l'application de la loi. Pour employer un langage du jour, on pourrait presque dire que ce sont les prêtres qui signaient les décrets d'application de la loi dans le journal officiel. Ils avaient aussi un rôle dans l'administration de la justice, ce qui sous-entend bien sûr qu'ils devaient rendre des sentences impartiales. L'Éternel a dit à Moïse, s'il se présente une affaire de meurtre, de litige, de coups et blessures ou quelque autre affaire qu'il est trop difficile au tribunal local de traiter, vous vous rendrez au lieu que l'Éternel votre Dieu aura choisi et vous irez trouver les prêtres lévites et le juge qui sera alors en fonction. Vous les consulterez et ils rendront pour vous leur verdict. Alors vous vous conformerez au verdict qu'ils auront rendu dans le lieu que l'Éternel aura choisi et vous aurez soin de suivre pleinement leurs instructions. Vous agirez selon les instructions qu'ils vous auront données et selon le verdict qu'ils auront rendu sans vous en écarter ni dans un sens ni dans l'autre. Alors les prêtres descendants de Lévi s'avanceront, car ce sont eux que l'Éternel votre Dieu a choisis pour être à son service et pour donner la bénédiction en son nom. Leurs décisions trancheront tout litige et tous les cas de coups et blessures. Peu avant de quitter ce monde, dans sa bénédiction patriarcale, Moïse a rendu hommage à la tribu de Lévi. Il a dit, « Les Lévites enseignent tout ton droit à Jacob, ta loi à Israël. Ils font monter vers toi le parfum de l'encens et offrent l'holocauste sur ton autel. » Il est bien vrai que leur ministère dégénéra en même temps que la vie politique et religieuse de la nation. Cependant, même dans les moments les plus sombres de l'histoire d'Israël, d'une manière générale, la tribu de Lévi a exercé une influence spirituelle et morale bienfaisante sur le peuple. Je continue le texte. Le prêtre est le messager du Seigneur des armées célestes. Verset 7. Comme je l'ai dit, l'une des responsabilités des prêtres était l'enseignement. Faire connaître la volonté de l'Éternel aux Israélites en expliquant comment la loi s'appliquait dans les diverses circonstances de la vie quotidienne. En cette capacité, le prêtre représentait le Seigneur parlant à sa place. Il était son porte-parole, son messager. Après l'ascension de Jésus, dans l'Église du premier siècle, ce sont les apôtres qui ont remplacé les prêtres dans la fonction d'enseignement et qui sont devenus les messagers du Seigneur. Cela est clairement indiqué dans un passage du livre des Actes suite à un incident qui n'est que trop humain. Dans l'église de Jérusalem, la première qui a vu le jour, Luc écrit qu'à cette époque-là, comme le nombre de disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme réputé digne de confiance, rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. » Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Depuis que les apôtres ont quitté ce monde, ce sont les pasteurs et responsables d'église qui ont la charge d'enseigner le peuple de Dieu et de les conduire dans le droit chemin par leur exemple. Sous le régime de l'Ancien Testament, les prêtres devaient faire connaître la loi au peuple, mais comme leur nom l'indique, ils avaient une autre responsabilité majeure qui était de servir d'intermédiaire entre l'homme et Dieu par la prière, qui était très formelle, mais surtout au moyen des sacrifices d'animaux, accomplissant ainsi les rituels d'expiation des péchés. Cette fonction est aujourd'hui assumée par Jésus-Christ lui-même, qui est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, écrit l'apôtre Paul, qui dit encore qu'il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Comme à l'époque de Malachie, les prêtres remplissaient très mal leur ministère de messagers du Seigneur, ils ont été sévèrement repris, rabroués par le prophète, dont le nom, justement et ironiquement, signifie « mon messager ». Les prêtres, n'assumant plus leur rôle, l'Éternel a envoyé à son peuple Malachie, c'est-à-dire mon messager, pour les remplacer. Le prophète Agée se donne le nom de messager du Seigneur, mais son nom signifie fête solennelle. Quand les prêtres étaient fidèles dans l'exercice de leurs fonctions, ils enseignaient la loi aux Israélites de manière à ce que ceux-ci honorent l'Éternel leur Dieu par leur conduite. Et si le peuple se détournait de la bonne voie, le devoir des prêtres était de le ramener à se repentir, s'amender et de le remettre dans le droit chemin. Comme on l'a vu à l'époque de Malachie, les prêtres fermaient les yeux quand on leur apportait à sacrifier un animal chétif, une vache folle ou un taureau avec une patte cassée. Ce comportement répréhensible est la première raison pour laquelle Malachie prononce un oracle de condamnation sur eux. L'Éternel veut en effet que ces mauvais prêtres se repentent de leurs mauvaises actions et respectent les clauses de la loi. Je continue le texte. Mais vous, vous êtes écartés du bon chemin. Par votre enseignement, vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Oui, vous avez rompu l'alliance avec Lévi, déclare le Seigneur des armées célestes. Verset 8. Il est inconcevable que les prêtres aient donné verbalement un enseignement opposé à la loi, car ils auraient pu être accusés de blasphème et exécutés sans autre forme de procès. Par contre, les prêtres se rendaient coupables de plusieurs manières. Premièrement, par leur silence approbateur quand les Israélites venaient au temple pour offrir un animal mal en point. Deuxièmement, par leur vie personnelle, leur façon de vivre qui était hautement condamnable. En effet, d'après les livres d'Esdras et de Néhémie, les prêtres ont été les premiers à divorcer leur femme israélite pour la remplacer par une étrangère qui appartenait à l'un des peuples voisins. Le prêtre Esdras écrit que quelques chefs d'Israël m'abordèrent en disant « Ni le peuple d'Israël, ni les prêtres, ni les lévites ne se sont séparés des gens du pays et n'ont rompu avec leurs pratiques abominables. Ils se sont conduits exactement comme les Cananéens, les Hittites, les Phérésiens, les Yébousiens, les Ammonites, les Moabites, les Égyptiens et les Amoréens. Car ils ont épousé les filles de ces étrangers et les ont données en mariage à leurs fils. Ainsi la descendance sainte s'est mêlée au peuple de ces pays. Les chefs et les dirigeants, ce sont les premiers rendus coupables d'une telle infidélité. » Un peu plus loin dans son livre, Esdras donne les noms de tous les hommes qui savaient s'être rendus ainsi coupables, et peut-être s'agit-il uniquement de ceux qui ont refusé de se repentir et de s'amender. À tout seigneur, tout honneur. Esdras commence par écrire les noms des descendants de Lévi, prêtres et lévites, puis c'est le tour des musiciens qui célèbrent l'Éternel pendant le culte, comme quoi l'hypocrisie n'est pas une invention nouvelle. Enfin, il termine avec les noms des Israélites ordinaires. Quand on considère cette longue liste, il y a de quoi être impressionné. Et ce qui surprend le plus, c'est que Esdras ne craint pas de terminer son livre en écrivant noir sur blanc tous ces noms. Puis il conclut en disant « Tous ces hommes avaient épousé des femmes étrangères et plusieurs en avaient eu des enfants. » Étant donné que l'apôtre Pierre dit que la parole du Seigneur demeure éternellement, on peut supposer que la liste noire écrite par Esdras ne sera jamais effacée. Et donc que ces hommes portent une tache indélébile qui les marque comme de grands pécheurs devant l'Éternel. À l'époque de Jésus, les Samaritains pratiquaient un mélange de judaïsme et de paganisme. Or, d'après les écrits de l'historien juif Joseph, il semblerait que la religion syncrétiste des Samaritains ait été créée par des prêtres renégats. Ce seraient eux qui, après l'exil, ont épousé des femmes idolâtres mais refusé de s'en séparer. Obligés de quitter le judaïsme, ils ont alors fabriqué et créé de toutes pièces leur propre système religieux. Le gouverneur Néhémie écrit qu'un des fils de Yo-Yada et petit-fils d'Eliashib, le grand prêtre, était devenu le gendre de Sanballat le Horonite. C'est pourquoi je le chassais loin de moi. Les prêtres dont parle Malachi méritent les reproches les plus sévères parce qu'ils ont vraiment tout fait pour irriter l'Éternel. En commettant ces fautes, ils ont déshonoré Dieu et violé l'alliance qu'il avait conclue avec Lévi, leur ancêtre. L'Éternel n'étant donc plus lié par ce contrat, il avait retiré sa bénédiction et les descendants de Lévi étaient les premiers à en souffrir. Comme ils occupaient une position d'autorité, le mal que commettaient les prêtres était très grave parce que dans leur chute, ils entraînaient le petit peuple qui était ignorant de la loi. Dans un troupeau de moutons, si ceux qui sont en tête se jettent dans le précipice, tout le reste suit parce qu'ils sont stupides. C'est triste à dire, mais les êtres humains sont tout pareils. Je continue le texte de Malachie. Alors, de mon côté, je vous ai livré au mépris et au dédain de tout le peuple, puisque vous ne suivez pas les voies que j'ai prescrites et que vous ne prêtez pas attention à la loi. Verset 9. À l'époque de Malachie, la gloire et l'honneur qui étaient inhérentes au ministère sacerdotal avaient muté en disgrâce et dédain. L'état spirituel et moral des prêtres était des années-lumière de l'état idéal voulu par Dieu. Précédemment, le Seigneur a dit aux prêtres « Vous m'outragez lorsque vous dites « La table du Seigneur est méprisable et ce qu'elle nous rapporte en aliments est vraiment dérisoire ». Comme les prêtres méprisent la table de l'Éternel, Dieu les a rendus méprisables aux yeux du peuple qui ne leur apporte pas les dîmes dont ils ont besoin pour vivre. En réalité, cette sentence est très légère, parce que selon la loi, toute profanation des sacrifices offerts à l'Éternel était passible de la peine de mort. La conduite coupable des prêtres à l'époque de Malachie n'était pas une première dans l'histoire d'Israël. En fait, cette dérive a commencé très tôt, déjà au temps où Élie était le grand prêtre de la nation. Cet homme a perdu le contrôle de sa famille. Il avait deux fils, Ophni et Phinéas, qui étaient prêtres et qui profitaient de leur fonction pour s'enrichir sur le dos des Israélites, et même ils couchaient avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre, dit un texte. Mais comme Élie était vieux et ne voulait pas faire de vagues, quand il a su comment ses fils se comportaient, il a réagi très mollement à leur égard. Alors un jour, un prophète est venu lui dire « Pourquoi donc méprisez-vous les sacrifices et les offrandes qui me sont destinées et que j'ai ordonné d'offrir dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi en vous engraissant des meilleurs morceaux des sacrifices que mon peuple Israël vient m'offrir? Puisqu'il en est ainsi, voici ce que moi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, je déclare. J'avais promis à ta famille et à celle de tes ancêtres que vous seriez toujours chargés du service devant moi, mais à présent, moi, l'Éternel, je le déclare. C'est fini, car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront à leur tour couverts d'opprobre. » Fin de citation. Que ce soit envers le juge Élie, envers les prêtres du temps de Malachie, ou aujourd'hui, l'Éternel rend mépris pour mépris.